Hello, hello! Alors j'espère qu'Internet va pas bugger parce que là je suis en 4G donc c'est un petit peu chiant. Bonjour à tous. Alors attends, j'attends que Manon se connecte du coup. Désolée pour le retard. On avait dit midi, c'est midi 5, mais bon, je suis pas trop dans les temps. Je me suis dépêchée. Alors je vais laisser Manon rejoindre. Voilà, je me fais désirer, hein. La meuf, bon, j'espère que vous me voyez bien. Alors attends, faut que j'accepte ton invitation. Tac, tac.
Alors, normalement, je t'ai accepté, Manon. Donc, oui, j'ai encore le son. Donc, voilà, c'était un petit peu. Ah, c'est bon.
C'est bon.
Ouais, c'est bon.
Ah.
Est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois? La connexion, elle bug pas trop parce que là, je suis pas trop. Bon.
Ça va, t'es un peu flou, mais peut-être que ma connexion s'y va bugger. Donc on va voir, mais je pense que ça va aller. Toi, tu me vois et tu m'entends bien?
Ouais, moi, ça va.
Ça
Bon, après, c'est pas internet, mais ça va. Genre, j'espère que je suis pas trop flou. Enfin, j'espère que ça va.
va.
Ok. Parce que ouais, c'est un peu galère ici. J'ai pas la wifi jusqu'ici. Bref. Enfin, bref, voilà. Donc, comment tu vas?
Ça va super, et toi? C'est mon premier live. Instagram, donc je suis trop contente et je suis trop contente de le faire avec toi aussi et de parler bah, de ce sujet qui est très passionnant.
Ouais, trop bien, trop hâte, trop hâte. Parce que du coup, le thème de ce live, donc c'est la dépendance affective. Donc, on va revenir sur plein, plein de choses. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir m'appuyer de ton thème astral, parce que là, je l'ai sous les yeux. Voilà, tu t'es bien née à Albi, dans les Midi-Pyrénées. Hein.
Ouais,
Donc,
c'est ça, ouais.
je trouve un endroit, ok. Parce que du coup, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu me dis avec ce que je vois dans ton thème. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, du coup, on va commencer. Donc, toi, j'aimerais que tu nous parles de. Bah, commence par te présenter déjà avant même d'introduire le sujet. Qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà. Je
Ben,
te laisse nous dire.
moi c'est Manon, je suis la grande, la vaste question. Mais là aujourd'hui, j'ai ben, fait un burn-out et je me suis reconvertie dans le développement personnel parce que moi ça fait des années que je travaille pour moi. Je suis passionnée de développement personnel, je suis passionnée de transformation. Je suis passionnée du fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'affirmer. Et du coup, ben, j'ai en faire mon métier. Donc je suis coach mindset et aussi je fais de l'énergie detailing et du chat. Et donc, du coup, bah, moi, ma passion et ma mission, c'est de continuer, enfin, et d'accompagner ces femmes, des femmes, en fait, dans leur cheminement vers l'amour de soi, vers l'acceptation de soi et aussi bah, l'affirmation de soi. Et je pense que si le gros challenge que moi, j'aime bien aussi mettre en place dans l'accompagnement, c'est comment arriver à ce que ces femmes-là se mettent en priorité dans leur niveau. Et donc, voilà, et ça me passionne et je suis super contente de faire ça.
Trop bien. Trop cool. Je sais pas si c'est moi, mais genre je te vois un peu pixelisé. Ou alors peut-être que c'est ma connexion, peut-être que je vais bouger. Toi, tu me vois bien ou pas? Parce que quand tu parles, genre j'entendais bien, mais je voyais juste ça bouger et tout.
Moi, je te vois un peu. Non, en fait, là, ça va. Des fois, ça part, ça revient, mais ça va. Je me vois bien, en tout cas. Et toi, ça va. Je te vois des fois un petit peu flou, mais là, ça va mieux. Donc, je pense que la connexion, elle paraît.
Ouais, parce que c'est pas le meilleur endroit, mais moi je peux pas aller ailleurs, donc on va faire avec.
Va faire avec.
Ok. Bah hyper chouette. Et bah du coup pour introduire le sujet, pour toi, c'est quoi pour toi déjà la dépendance affective? Je crois que je l'appelle une petite. Mais pour toi, ça ressemble à quoi?
Pour moi, c'est vraiment le fait de pas pouvoir être soi de façon indépendante, de devoir calquer certaines de ses réactions, certains de ses besoins, certains de ses choix de vie en fonction bah, des fois bah, des parents quand on est enfant ou d'un partenaire plus tard. C'est carrément aussi, en tout cas moi comme je l'ai vécu, c'est renier une partie de moi, c'est renier une partie de ce que j'avais envie de faire, renier une partie de pas pouvoir être complètement moi, mais parce que quelque part, c'est comme si tu as quelque chose de façon interne et que plus jeune, tu peux pas contrôler, qui finalement t'empêche d'être toi. Parce que c'est des blessures qui sont actives, il y a plein de raisons. Mais ouais, moi, c'est vraiment le fait de pas pouvoir être moi de façon bah, indépendante et en fait de pas être pouvoir vraiment moi finalement.
Ok. D'accord. Et toi, du coup, tu l'as ressenti. Alors, en fait, à quel âge t'as ressenti ce truc-là qui venait te chercher, cette dépendance?
Alors, je pense enfant. Tu vois, si j'écoute mon système nerveux et tout, je te dirais bébé, même dans le ventre de ma mère. Après, je pense que quand j'ai réfléchi aux premières nutritions, c'est quand j'étais enfant. Moi, j'étais élevée que par ma mère. Mon père n'a pas voulu m'élever. Et du coup, on était très, très fusionnés avec ma maman. Moi, je voulais tout faire avec ma maman. Ma mère travaillait beaucoup parce que ben, voilà, c'est elle qui devait subvenir aux besoins. Donc, elle travaillait en plus dans le commerce. Donc, elle commençait tôt, elle finissait tard, elle travaillait le samedi. Et je sais que les séparations avec ma mère, des fois quand c'était le week-end, que j'allais pas la voir tout le week-end ou l'été parce que ben, elle travaillait, il fallait qu'elle me mette dans des trucs d'activité, enfin, des centres aérés, des trucs comme ça, c'était, je pleurais de toutes mes larmes, du coup ma mère aussi pleurait, enfin, c'était vraiment, la séparation était très 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 difficile et on était très très fusionnels avec ma mère, voilà, jusqu'à ce que je pense que je devienne, je sais pas, adulte. Et ça va être les premiers trucs où tu sens que, ouais, que finalement tu es dépendante d'un de tes parents. Quand j'ai eu mes premières relations amoureuses à 16, 17 ans, ouais, là, tu vois, c'est le truc qui commence à, voilà, beaucoup d'émotions, se dire que finalement, la personne avait quitté, c'est toute ta vie, que tu peux pas vivre sans elle, limite, besoin d'avoir un contact permanent. En plus, ben, moi, je pense que je m'étais remise dans un schéma parce que la première relation que j'ai eue, la première relation amoureuse que j'ai eue quand j'avais 16, 17 ans, bon, on était à distance, donc, ah, et les séparations super difficiles. Et besoin d'avoir des contacts tout le temps, par message, d'être rassurée tout le temps. Donc, ouais, je pense que c'était ça. Et puis, de façon générale, je pense qu'aussi, il y avait une partie de moi qui se sentait aussi souvent très, très seule, parce que ma mère enfin, travaillait beaucoup, qu'elle m'amenait un peu partout, que je n'étais pas forcément dans des environnements si sécurisants avec les gens avec qui j'étais quand j'étais enfant, que ce soit dans ma famille ou que ce soit dans les amis de ma mère chez qui elle m'amenait. Donc, ouais, voilà. Et puis après, ben, oui, bon, là, c'est la dépendance. Mais après, comment tu réagis? C'est que moi, j'ai pris des responsabilités assez vite en tant qu'enfant, quoi. Donc, tu te blindes, quoi. Tu deviens un peu forte.
Ouais, je vois, ouais, vraiment. Bah, du coup, c'est vrai que quand t'as pas grandi avec une figure paternelle et que t'avais que, enfin, un parent ou l'autre, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis je remarque qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, parce que c'est, enfin, on va dire, c'est, j'ai l'impression que c'est plus commun chez les femmes, ce genre de truc. Qu'en fait, c'est beaucoup soit le manque d'un père qui n'a vraiment pas été là, soit il a été là, mais pas correctement, soit il n'y a pas eu d'affection, enfin, que l'enfant recherchait. Enfin, forcément, il y a une thématique, en fait, autour du père. En général, et c'est vachement récurrent, tu vois, ce truc-là. Mais
Et je pense,
oui, dis-moi.
je pense qu'en plus dans les archétypes, le père, il est censé vraiment te sécuriser, tu vois, t'amener une sécurité finalement en toi. Bon, je parle là en ce moment du système nerveux parce que c'est ce que je suis en train de travailler sur moi, mais d'être censé avoir une sécurité et une protection. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'y réfléchis, et les figures masculines que j'ai eues, c'était soit très agressives, incapables de gérer leurs émotions, pas me battre, choses comme ça, attention, mais agressives, on va dire, verbalement ou dans leur comportement, pas forcément contre moi, mais de façon générale. Ou alors, c'était des hommes complètement démissionnaires. Et donc, c'est vrai que oui, ça t'apporte pas, ça joue beaucoup, en fait, le manque d'un père, ou comme tu dis, la présence défaillante, finalement, d'un père.
Ouais, carrément, de fou. Et puis, tu vois, c'est intéressant parce que dans ton thème astral, donc tu as le soleil en scorpion. Et en fait, le soleil représente le père dans le thème astral, enfin, dans la plupart des cas. Et genre là, si je regarde un petit peu, tu vois, ça peut se confirmer parce que tu as ton soleil en maison 8, donc il représente tu vois, tous les tabous, toutes les choses cachées. Et il est en carré donc à Saturne qui représente un peu la responsabilité, etc., le cadre et plein d'autres choses. Et donc quand ces deux aspects sont en tension, là, si on prend juste le symbole du père, ça fait que en plus en maison 12, bah, il peut avoir été absent. Parce que la maison 12, c'est l'absence, c'est genre c'est quand tu es seul, c'est une maison où tu es tout seul en fait, il y a personne. Donc ça peut vouloir dire ça, pas forcément dans tous les cas, mais dans ton cas là, ça se confirme du coup. Et ouais, c'est intéressant. Et alors était où moi? Oui, du coup, tu as pu remonter du coup à l'origine de ça. Donc, enfin, j'imagine que tu as grave cheminé dessus du coup parce que
Ouais.
c'est un long chemin. Et bah, en fait, du coup, t'as spoilé une de mes questions, mais c'est pas grave. Tu m'as expliqué toute ton enfance, non pas toute, mais du coup, ton enfance. Enfin, si tu m'as dit que tu le ressentais à l'enfance, déjà cette dépendance, ça se traduisait comment? Enfin. Est-ce que tu peux me faire un petit peu le, enfin, comment ça se manifestait en fait de petite à ado à maintenant, enfin maintenant, à avant, il y a quelques années?
Ben petite, comme je disais, c'était le fait de devoir tout le temps, de vouloir tout le temps être avec ma maman. Ado, ça a été vraiment. Alors, adolescente, le début de l'adolescence, genre 12-14 ans, ça, j'ai pas forcément de souvenirs de comment ça pouvait se manifester. Mais après, c'est quand j'ai vraiment eu mes premières relations, où, oui, voilà, comme tu disais, besoin d'être avec la personne, besoin d'être rassurée tout le temps. Je sais que ça, c'est aussi commun de devoir tester l'amour de la personne. Et comment moi je testais l'amour de la personne, tu sais, en cherchant quelque chose, en piquant quelque chose, en cherchant le conflit pour pouvoir être ben, rassurée derrière et savoir que la personne m'aime toujours. Et après, il y a eu vraiment cette notion de quand j'ai commencé à me construire en tant qu'adulte, ben, de m'oublier complètement. Alors, pas complètement, complètement, parce que j'ai quand même fait des choses, j'ai quand même fait mes Erasmus, j'ai fait mes études comme je voulais les faire et tout, mais il y avait des choses où je me souviens, j'ai fait deux Erasmus où j'étais en couple avec quelqu'un dont j'étais très, très, très amoureuse. Et ces Erasmus, Erasmus, c'est une opportunité géniale. Et je sais qu'il y a des moments où je me suis dit, ah ben c'est nul, j'aurais aimé vivre ça avec cette personne, ah ben c'est nul, hein. Alors qu'en fait, finalement, je vis pour moi, je vis pas pour être avec quelqu'un, je vis pas pour tout le temps être avec cette personne. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait des parties de moi qui ne s'autorisaient pas à vivre pleinement en dehors de la relation quand j'étais en couple. Je sais pas si tu penses.
Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est que ouais, t'es complètement accaparé par, enfin, par l'autre, tu penses qu'à l'autre, t'as que lui dans la tête, t'es omnibulé, genre t'es obsédé, je dirais même, parce que ça parle loin, mais c'est ça, en fait, t'as l'impression que, en fait, il n'y a que ta relation qui compte, et j'irais même plus loin, en fait, tu vois, c'est pas forcément, j'ai l'impression que la dépendance affective, enfin, pour moi, à mon sens, comment moi je la définis, c'est que c'est pas forcément une dépendance à l'autre, mais c'est une dépendance à la relation que tu crées, tu vois? Plus la relation à tout prix plutôt que l'autre, parce que si vraiment tu penses au bien-être de l'autre, il y a des trucs que tu ferais pas, tu vois, tu ferais différemment. Mais vu que tu veux à tout prix sauver la relation et dans ce truc de oh, je ne suis rien si je suis pas en couple, en fait, c'est la relation limite qui est plus importante, en fait. Tu
Ah
vois ce que
oui, clairement, clairement. Et limite à se dire, si je priorise pas la relation, ben en fait la personne va m'abandonner, la personne va me rejeter et tout. Parce que oui, c'est vrai que j'ai parlé de mon enfant, mais bon, ça paraît clair que moi j'avais une blessure d'abandon au niveau de mon père qui était bon, très 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 marqué parce que de base voilà, il a pas voulu être avec moi. Donc c'est vrai que tu as tout ce truc de se dire ouais, de se dire oui finalement si je priorise pas ça. Si je fais ci ou si je fais ça, si je suis indépendante aussi de la relation, bon, en fait, je vais perdre la personne, ou la personne va plus m'aimer, ou la personne va m'abandonner, ou va me rejeter. Et tout ce mécanisme finalement que tu crées dans ta tête. Et ouais, comme tu dis, d'être. Finalement, t'es pas forcément. Parce que moi, ce garçon dont j'étais très amoureuse, finalement, c'était pas le meilleur copain au monde, hein, quand j'y réfléchissais après coup. Mais c'était ce que la relation. C'était accro à la relation et au fait que t'es en couple avec quelqu'un et que t'as cette complicité-là et que ça se passe bien. Et ouais, du coup, des fois, c'est pas. Tu réfléchis pas. J'ai l'expression en anglais, bien sûr, et pas en français, mais you don't think straight. Tu vois, tu réfléchis pas vraiment de la bonne façon. C'est pas vraiment rationnel. Bon, tu me diras, l'amour n'est pas vraiment rationnel tout le temps, mais il faut quand même un peu de ça pour pas s'oublier, quoi.
Bah ouais, bah en fait, c'est que oui, comme tu dis, en fait, c'est pas lucide, c'est tes émotions qui parlent plus que toi. Donc, non, clairement, c'est t'as beau des fois savoir, tu te dis, mais non, mais c'est pas normal de réagir comme ça ou d'être comme ça ou d'être comme ci. Mais en fait, tu peux pas t'en empêcher, limite, c'est genre, c'est plus fort que toi, même si mentalement. T'as conscience que c'est pas normal, tu vois, dans ta tête, mais ton corps, il s'exprime et tes émotions, elles s'expriment à un point que tu peux pas les retenir, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire,
Ah
mais c'est
oui.
comme ça que ça s'exprime.
C'est pas contrôlable. Il y a des choses qui sont pas contrôlables. Moi, je sais que les comportements que j'ai eus de rentrer en conflit avec la personne pour un micro truc, juste parce que j'avais senti, je sais pas si c'était énergétiquement, subtilement, ou si c'était moi juste qui le ressentais de mon côté, que la personne pouvait être distante. Mais en vrai, c'est pas de la vraie distance, tu vois. Et du coup, de se dire, ah, il faut que je sois rassurée par rapport à la relation, il faut que je sois rassurée par rapport à être sûre qu'il m'aime toujours. Et du coup, d'aller chercher le conflit pour amener à un truc où la personne te dit, mais si, mais je t'aime, ou si, je suis là, ou la façon dont elle va te dire, ok, c'est bon, he cares about me, tu vois. Mais ouais, mais c'est pas, enfin, c'est pas ça, mais en plus, qu'est-ce que c'est énergivore? Enfin, c'est tellement. Qu'est-ce que c'est énergivore?
Mais là, tu as amené un point qui est important. Tu as dit, en fait, tu cherchais à le faire. Enfin, moi, je faisais pareil aussi, tu vois, avant. C'est que tu cherchais, en fait, pour être rassuré, vu que l'autre ne le fait pas naturellement, tu vois qu'il ne le fait juste pas, en fait, et que toi, tu sais pas formuler des besoins correctement, et ben, tu vas aller chercher la petite bête et le conflit à tout temps. Alors, ça peut se manifester peut-être autrement. Moi, je sais que ça se manifestait comme ça. Bah, en fait, je cherchais, mais fallait voir à quel point, mais je m'embrouillais, mais tout le temps, genre, je cherchais toujours un truc qui n'allait pas. Il fallait que je trouve un truc pour qu'on s'embrouille, mais en fait, pas pour, parce que j'aime le conflit, personne n'aime le conflit. Mais tu vois, mon Mars en Bélier, il voulait se fight, tu vois. Enfin, bref, je voulais, enfin, tu vois, j'avais un peu, enfin, moi, j'ai toujours été un peu comme ça, un peu, tu vois, colérique, enfin, tu vois, j'avais été beaucoup en colère avant. Et vraiment, je sortais, enfin, je pouvais te trouver toutes les excuses, que ça soit au niveau de la jalousie, tu vois, au niveau d'autres femmes que je me comparais, ou alors, je sais pas, genre, il me répond pas parce que du coup, ça veut dire qu'il m'aime pas, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, je vais aller créer une tension et un conflit, alors que au lieu de dire, là, j'ai besoin que tu me rassures et de le dire clairement, oralement, en fait. Là, je me sens comme ça, j'ai besoin d'être rassurée sur ça. Et ben, en fait, tu vois, c'est beaucoup plus simple en fait, plutôt que de créer des conflits juste pour créer un espace où tu vas être rassuré à la fin, 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 et encore si ça part pas trop en couille, tu vois, entre guillemets.
Ouais, et puis ouais, mais complètement, parce que moi c'était pareil. Enfin, moi je savais pas que non plus exprimer mes besoins, et même je pense que j'étais pas consciente du fait qu'à ce moment-là j'avais besoin d'être rassurée. Enfin, j'étais pas juste consciente, mais c'est vrai que ouais, c'est des choses. J'ai vécu la même chose, et comme tu dis, ça pour perdre en plus beaucoup d'énergie finalement et abîmer la relation, parce qu'au final, à la fin, progressivement, t'abîmes la relation, parce qu'à force de faire ça tout le temps, ben. La personne vient, mais au bout d'un moment, la personne, ben, même si elle a beau t'aimer de tout son cœur, ben, au bout d'un moment, c'est fatigant. Enfin, moi, si je me mettais à la place de la personne, si quelqu'un me faisait ça tout le temps, ben, je serais déjà partie depuis. Enfin, je partirais très très vite, quoi. Mais c'est vrai que oui.
Attends, je vais juste. Attends, je vais essayer de bouger parce que ça me perturbe trop les pixels. Je ne sais pas si c'est ta connexion ou moi, mais moi ça me perturbe. Donc attends, je me déplace. Je suis désolée. Attends. Voilà, désolée, c'est les aléas du direct. Non,
Ouais.
parce que vraiment, je peux pas, ça me stresse. J'espère que ça va bien fonctionner comme ça. Normalement, ça va pas couper en plein milieu.
Ouais.
Tac, est-ce que vous me voyez bien? Je me mets là. Est-ce que tu me vois mieux là?
Ouais.
Ça marche. Hop. C'est bon là?
Ouais, moi je te vois bien.
Là, c'est mieux.
Ouais.
Ok, parfait. Très bien. On valide. Alors, du coup, j'en étais. Oui, donc, ouais, c'est vrai que ça se manifeste de différentes manières. Mais vraiment, le fait d'être rassuré, je pense, c'est un gros truc. C'est un gros point. Enfin, d'ailleurs, il y a Clara qui répond. Enfin, je regarde un petit peu le chat. Il y a Clara qui se reconnaît là-dedans aussi. Mais franchement, enfin, c'est un long chemin. Mais je trouve le plus important, c'est de mettre de la conscience dessus.
Ouais.
D'avoir conscience que tu as besoin d'être rassuré, d'avoir conscience que là, tu n'es pas bien par rapport à ça. Parce que ça se manifeste de plein de manières, tu vois. Mais notamment, on en parlait. Mais qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette anxiété constante, parce que j'imagine que tu ressentais ça aussi, cette, toi, ces insécurités-là. Toi, c'était quoi tes plus grandes insécurités? Comment ça se manifestait au quotidien, tu vois? Est-ce que tu étais une personne jalouse, ou alors est-ce que tu étais, enfin, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça?
Alors, jalouse, pas ouvertement, on va dire. Par contre, c'est toujours faire attention, tu vois. Genre me dire, faire attention à qui avait la personne. En fait, les mecs avec qui j'étais vraiment en relation, parce que j'ai aussi des relations en mode sex friend et tout. Bon, ça, c'est une façon pour moi de me couper de mes émotions et tout. On peut peut-être aussi en parler si tu trouves ça intéressant, mais. Quand j'étais en relation amoureuse, les garçons avec qui j'étais, quand même, je savais qu'ils m'aimaient, qu'ils n'allaient pas aller voir ailleurs ou des choses comme ça. Par contre, des fois, tu ressentais qu'il y avait des femmes, des fois, qui peuvent tourner autour, et tu gravites et tu sens, bon, voilà. Mais après, j'ai jamais été ouvertement jalouse, avoir des comportements à dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. En fait, je suis en train de me dire peut-être pas des autres, mais peut-être jalouse. C'est intéressant. Pas jalouse des autres, mais peut-être jalouse du développement. développement de la personne, tu vois. Alors, pas jalouse de femme, c'est vrai que je le voyais sous ce prisme-là, mais là, maintenant, je suis en train de réfléchir et je me dis, il y a d'autres formes de jalousie ou de possessivité, mais c'est vrai que, ouais, peut-être de dire à... Là, j'ai vraiment une relation en tête hein, quand je dis ça, de dire à mon compagnon, bah non, tu fais pas ci ou non, tu fais pas ça parce que, parce qu'en fait, ça m'a insécurisée. Bah, cette personne avait quitté quand moi j'étais en Erasmus, donc dans les études, lui aussi était dans les études, et lui il est parti faire de l'humanitaire, donc c'était sûr qu'on allait se séparer un jour, c'était sûr, parce que moi j'allais pas le suivre en humanitaire. Et je sais qu'il y a eu des moments quand il faisait des stages, je lui dis non, tu pars pas 3 semaines, tu pars que 2 semaines parce que sinon on va pas se voir, nanana. Et ça, je pense que c'est une forme de, je sais pas, c'est une forme de jalousie. Mais en tout cas, c'est une forme de, ouais, de possession, pas, finalement d'empêcher l'autre personne de faire ce qu'elle a envie de faire parce que c'est tes insécurités à toi, finalement, qui parlent. Alors qu'en soi, c'est pas très grave d'être séparé pendant 3 semaines, mais à ce moment-là, je savais pas vivre par moi-même, donc c'était plus difficile. C'était plus
Ouais,
difficile.
ouais, ouais. Mais après, en soi, ça dépend aussi parce que oui, là, je comprends, ça peut rentrer dans le cadre du coup de la dépendance parce que en soi, la jalousie, c'est pas forcément aussi, enfin, c'est pas forcément fouiller dans le téléphone et puis dire tu fais pas ça, tu fais pas ça. C'est en fait, tu peux aussi le ressentir et juste sentir de l'insécurité. Moi, je sais que je faisais pas forcément ça. Enfin, tu vois, j'aimais pas faire ça. Mais par contre, je disais tout le temps, enfin, tu sais, je faisais des remarques ou des petits pics ou tu vois des trucs. Ah, ça, j'aime pas du tout. C'est qui, machin, tu vois. Mais je disais pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Tu vois. Moi, je le contournais autrement, même si je le montrais bien que ça me plaisait pas. Et sauf que quand l'autre en face ne sait pas non plus te rassurer, il y a aussi ça, tu vois. Parce que pour moi, tu peux pas être dans la dépendance affective si l'autre, il veut pas. C'est-à-dire que ça se nourrit à deux, hein. Même si l'autre, tu vas me dire, il est hyper indépendant, parce que moi, par exemple, mon ex, c'était hyper indépendant. Mais en soi, ça se nourrit à deux. Ça, faut bien le comprendre. Parce que quelqu'un qui n'accepte pas, qui ne veut pas être dans ce truc-là, il sera pas avec toi, en fait. Clairement. Donc, ça se nourrit à deux, mais c'est vrai que oui, il y a plein de... Enfin, ça prend plein de formes différentes, mais je peux comprendre. Après, être séparé pendant plusieurs semaines, tu vois, ça nourrit l'insécurité aussi, hein, parce que forcément, tu te vois pas. Moi, je sais que, même si là, tu vois, j'ai vraiment, enfin, guéri de ça, tu vois, de cette dépendance, tout ça. Je sais que maintenant, je ne peux plus être en couple avec quelqu'un que je ne vois pas souvent, en fait. Si c'est pour se voir toutes les 2 semaines, ça ne me convient pas. Mais ça, encore, c'est, tu vois, c'est des choix aussi. C'est enfin, en fait, tu choisis avec qui tu as envie d'être, tu vois, et pas juste je subis. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, et puis c'est aussi, tu vois, quand on dit mettre de la conscience, c'est se dire, bah moi, c'est pas possible pour moi d'être avec quelqu'un et de le voir qu'une fois par mois. Bah ok, voilà, c'est aussi chacun a ses. T'as des gens qui n'auront pas de problème vis-à-vis de ça parce que leur carrière, parce que X, Y raison. Mais il y a aussi un truc où se dire, bon, pas non plus se faire du mal, et ouais, comme tu dis, subir, se faire du mal et se faire auto-souffrir juste pour être avec quelqu'un. Et ouais, enfin. Tu vois, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je vois ce que tu veux dire, ouais.
Ouais. Mais surtout les insécurités, en fait. Mais c'est vraiment à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que l'autre, vu que ça fait effet miroir, tu vois, c'est intéressant l'effet miroir, mais ça, il vient te renvoyer des trucs et en fait, toutes tes insécurités, elles ressortent. Et c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que la dépendance affective, c'est un puits sans fin. Il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que t'as beau, même si la personne en face, c'est une personne, une personne saine, respectueuse, etc. En fait, elle va. Genre, enfin, elle a beau te rassurer tout le temps, te dire qu'elle t'aime, que t'es la plus belle, que ci, que ça, tout le temps. Toi, en fait, tu vas toujours sentir ce vide et tu ne seras jamais remplie, ça ne sera jamais assez.
C'est
Et
toi
tu ne ressentiras pas l'amour, tu ne te sentiras pas aimée. Il a beau dire qu'il t'aime, tu te sens pas aimée, tu te sens pas aimée et c'est comme ça. Et c'est ça qui est difficile, je trouve.
Ben c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'en fait, c'est ça, tu peux avoir. Moi, j'avais ce ressentiment, c'est de me dire, je savais de façon, on va dire, raisonnée, même je savais que j'étais aimée par ces personnes-là de façon. Que c'était pas du mauvais amour, enfin je sais pas s'il y a vraiment du mauvais amour, mais en tout cas il m'aimait vraiment. Mais dans ma tête c'était pas possible que je puisse être aimée. Dans ma tête il y a vraiment ce truc de, enfin un des symptômes, c'est vrai, j'ai pas forcément évoqué ça plus tôt, mais c'est de se dire dans ma tête, je me disais c'est pas possible, tu peux pas être aimée, c'est pas possible, cette personne elle peut pas t'aimer. Et du coup c'est pour ça qu'après t'as les comportements de te dire comment je vais me rassurer, comment je vais me rassurer pour être sûre que cette personne elle-même. Mais si toi en toi t'es persuadée que t'es pas aimable ou que tu es persuadé qu'on ne peut pas t'aimer pour ce que tu es, bah, mettre dans toutes les relations que tu veux, ça va jamais. Tu vas, c'est pas quelqu'un qui va, c'est pas une relation qui va te guérir, c'est travailler à l'amour de toi et à enfin, toi et t'accepter toi tel que tu es en fait. Et si tu fais pas ce cheminement-là d'amour de soi, ben, enfin, c'est vrai, on le dit, hein, on le dit de plus en plus, on le voit partout. Et moi, je pense quand même que les relations de couple, ça peut être vraiment des très bons cheminements initiatiques, un point de vue pour se guérir et tout. Mais si toi, en toi, t'as pas déjà cette sécurité intérieure que tu t'aimes, que tu l'as pour toi, que tu subviens à tes besoins, que tu sais poser tes limites, ben, c'est pas avec une autre personne. Et surtout, voilà, c'est le plus important, que tu sais te rendre heureuse toute seule, c'est pas une relation. C'est pas une autre personne qui arrivera à te sécuriser finalement.
Ouais, exactement. Après, du coup, ça te montre à quel point, du coup, enfin, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais quand tu vois tes réactions avec l'autre, en fait, c'est un miroir et du coup, tu vois à quel point tu t'aimes pas, en fait. Clairement. Et ça, bah, c'est sûr que si tu fais pas le chemin, enfin, le travail sur toi et que t'as pas envie, parce que faut vraiment avoir conscience et le vouloir, parce que ça sert à rien de se dire, bah, si tu dis je suis comme ça et ça changera jamais, ben, malheureusement, ça va être compliqué. Donc, c'est avoir conscience et surtout vouloir guérir et se faire aider, se faire accompagner, enfin tu vois, c'est déjà faire le cheminement sur soi, apprendre à se sécuriser tout seul, mais ça prend du temps, franchement c'est un chemin, tu vois, mais c'est bien le chemin d'être entouré pour ça et de se responsabiliser, de plus être une victime, tu vois, en mode je guérirai jamais, c'est bon, genre ça marchera pas, tu vois.
Ouais, moi je sais qu'au bout d'un moment j'ai eu un déclic et je me suis dit, maintenant tu peux pas continuer comme ça. Tu veux être heureuse dans ta vie ou tu veux pas être heureuse dans ta vie? Tu veux avoir des relations saines ou tu veux pas avoir des relations saines? Et je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, ben il faut aussi que tu travailles sur ça, il faut que tu travailles ton rapport aux hommes parce que moi, comme je te disais, moi j'avais soit dans mon enfance, soit des versions, on va dire des personnes masculines très agressives. Verbalement, soit des gens qui étaient complètement démissionnaires. Du coup, j'avais vraiment ce truc aussi de me dire, bah, les hommes, c'est soit des oppresseurs, soit des bons à rien. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, il y a des hommes qui sont bien, faut pas mettre des mecs dans des cases, des choses comme ça. Et donc, moi, je sais que par rapport à ça, bon, j'ai travaillé l'amour de moi pas pour m'aimer, mais j'ai aussi travaillé ma relation avec les hommes et la façon dont je voyais les hommes. Et aussi, comme tu disais, voilà, avoir cette prise de conscience de se dire, ben, je vais pas, je suis comme ça, mais en fait, je peux changer, je vais pas juste rester comme ça toute ma vie, parce qu'en fait, ben, c'est fatigant. Et puis, comme tu dis, personne n'a envie d'être en conflit tout le temps. Je connais personne qui a vraiment envie de se dire, j'ai envie d'être malheureux toute ma vie, d'être dans des relations où je suis pas heureuse et où ça appuie tout le temps sur mes insécurités, parce que c'est fatigant, quoi. C'est
Ouais.
fatigant au bout d'un moment.
C'est clair, c'est épuisant. Alors, je sais pas. Ça me perturbe parce qu'en fait, je pense que la connexion, ça vient de toi aussi parce que je te vois un pixel.
Ah ouais?
Je sais pas si ce soit. Ouais.
J'ai.
Bon, après, c'est pas. On t'entend bien après, hein, mais.
Moi, je me vois bien.
Ouais, mais c'est normal parce que c'est ton truc. Mais genre, moi, je te vois un peu flou, mais moi, je t'entends, donc c'est pas très grave, c'est un détail. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et pour toi, du coup, si tu devais faire le bilan, genre, en gros, c'est quoi qui a été le plus dur, le plus difficile dans ce que tu as ressenti dans la dépendance affective? Genre, un moment qui t'a marqué, si tu peux nous le dire, si tu as envie de le partager, bien sûr.
Le plus dur, ben, c'est d'être enfin, tu vois, c'est de se sentir accroché à quelqu'un et que la personne, elle t'aime. C'est pas qu'elle t'aime pas, mais qu'elle te veut plus. Et du coup, aussi, c'est d'avoir des comportements. Ça, je dirais, c'est le plus dur en termes de sentiments, de rejet, d'abandon. C'est vraiment ça. C'est de vouloir avoir envie d'être avec une personne et finalement, elle veut plus de toi. Ça, je l'ai ressenti plusieurs fois. Et du coup, d'avoir ce truc où ça fait tellement mal je sais même pas l'expliquer de façon, tu sais, avec les mots, mais ça fait tellement mal dans ton cœur et dans tout ton corps de te dire finalement, ouais, je sais pas comment dire, mais c'est difficile à exprimer. Et c'est juste un ressenti énorme où tu te dis, ouais, c'est très intense, ouais, c'est le mot que je cherchais. C'est intense. Ça a été dur. Et après, je pense qu'aussi la vision que tu as de toi, tu l'as dit un peu plus, tu en as parlé un peu plus tôt, de voir ta comportement, de te dire ouais, c'est normal, parce que moi je pense pas que j'étais borderline, mais j'avais des comportements qui pouvaient être assimilés à du borderline dans les relations à ces moments-là, à se dire t'appuies sur tel bouton, ou alors tu cherches du conflit ou tu fuis, tu viens, tu fuis, tu viens. Je pense que ça a été, ouais, il n'y a pas un moment plus dur, c'est plutôt des ressentis, on va dire,
Oui. Bah en fait, c'est toi, ça dure combien de temps du coup? Je sais pas si tu me l'as dit, mais je crois pas. C'était de quel âge à quel âge, par exemple, t'as vécu la dépendance affective?
Bah, je dirais d'enfant jusqu'à. Je pense que je me suis sentie différente vraiment en 2021 parce que je me suis mise en priorité. Et là, je me suis dit, je suis devenue très très indépendante, hyper indépendante. Et après, bon, là, je suis en relation et ça va beaucoup mieux. Mais je veux dire, ouais, de toute mon enfance jusqu'à. Ben là, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année. Donc jusqu'à mes 27-28 ans, je dirais, ouais. 27-28 ans.
Et après, on va venir juste après sur les solutions, etc. C'est intéressant. Mais là, je voulais juste faire un petit focus astrologie. Parce que là, j'ai ton thème astral sous les yeux. Et je voulais parler de justement comment on voit la dépendance affective dans le thème. Je trouve ça intéressant.
Ouais.
Pour ceux qui n'ont pas besoin forcément d'y connaître beaucoup, mais juste c'est intéressant de voir ça. Par exemple, toi, je sais que bon, bah, tu as beaucoup d'énergie scorpion. Donc,
Yes.
c'est. Bon, après, le scorpion, on est parfois parce que t'es scorpion, que forcément t'es quelqu'un de jaloux et dépendant affectif, on est bien d'accord. Mais là, je parle vraiment dans ton cas, dans ce que je vois. Et donc, bah, tu as aussi Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, et tu vois, de comment tu donnes de l'amour, tu reçois, comment tu entres en lien avec les autres, tu vois, les liens affectifs, les désirs, enfin vraiment, c'est lié à tout ça. Et aussi l'énergie yin. Et donc, toi, elle est en scorpion et elle est collée à Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter vient grossir et mettre en excès tout ce que ça représente. Donc, Vénus en scorpion, elle a besoin d'intensité, de passion profonde et surtout, tu vois, elle peut ressentir très fort de la jalousie, elle a besoin de contrôler. Et la blessure de trahison, ça peut être la pire chose au monde que tu peux lui faire, quoi.
Ouais.
Vraiment, le te trahir, c'est genre, c'est un crime. C'est quelqu'un que je connais qui a une Vénus en. Un homme que je connais qui a une Vénus en scorpion, il m'a dit, moi, trompé, enfin, pour moi, la fin d'été, c'est un crime. J'ai fait, c'est tellement Vénus en scorpion de dire ça. Mais je suis totalement d'accord. Hein. Mais du coup, c'est comme ça qu'on peut le voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que alors j'ai pas été trompée. Par contre, je pense qu'une des pires choses aussi, et je pense que c'est ça après qui m'a fait faire un déclic, c'est que du coup, de ce mec dont je parlais, j'étais en relation pendant mes études, j'en ai resté 3-4 ans ensemble. Donc lui, finalement, il est parti en humanitaire, finalement. Enfin, voilà. Et il est. Bon, c'était déjà séparé, remis ensemble, séparé, remis ensemble les 6 derniers mois. Et en fait, il s'est mis en couple là-bas, sur place, avec quelqu'un que je connaissais, tout en me disant qu'il était encore amoureux de moi, qu'il savait pas, blablabla. Et alors, ça était vraiment au niveau de mon ego, au niveau de mon cœur, je me suis dit maintenant faut que tu le laisses partir, il t'aime pas, il y avait un truc où il y a quand même en moi voilà, mais alors au niveau de mon ego, voilà ben ça fait ressortir le scorpion. Je me souviens je lui disais mais t'es faute, c'est pas possible d'aimer deux personnes en même temps, blablabla. Vraiment. Mais après du coup après ça au bout d'un moment je me suis dit stop, je peux plus mettre de l'énergie dans des trucs comme ça et tout que ça a été au niveau de l'ego, bon au niveau du cœur aussi, mais vraiment c'était j'ai senti qu'au niveau de mon ego j'étais oh tu vois ça. Tu sais, t'as bien ta fierté, quoi, carrément. C'est même plus au niveau du cœur, c'est dans la fierté. Je pense parce qu'à ce moment-là, je pense que moi, j'étais plus amoureuse de lui. Et voilà, mais c'était vraiment au niveau de l'ego de savoir que lui, il avait trouvé quelqu'un avant moi et tout. Et ça, ouais, ça, je l'ai vraiment vécu aussi comme une trahison, ouais. À ce moment-là, ouais. Mais c'est intéressant, du coup, de dire.
Ouais, carrément, parce que ça se voit aussi dans le thème. La blessure de trahison, ouais, tu ça, tu peux le voir. Et puis en plus, c'est grossi, tu vois. Donc, il y a ce besoin avec Vénus en scorpion d'intensité. Et puis, c'est tout ou rien, il n'y a pas de demi-mesure, tu vois. C'est soit noir, soit blanc. C'est genre, tu peux limite vouloir contrôler l'autre, tu vois. Donc, on en parlait. Ça peut être des manières d'expression de dépendance affective quand tu veux contrôler l'autre parce que tu as besoin qu'il t'aime. Du coup, tu veux tout gérer, etc. Et aussi autre chose dans ton thème qui peut se voir, notamment, tac, tac, ouais, c'était ça, c'est que tu as ta lune en balance, en maison 7, et je traduis du coup parce que forcément tout le monde n'est pas astrologue, mais en gros, la lune, c'est tout ce qui représente tes émotions, donc ton monde émotionnel, ton inconscient aussi, c'est très intime, tu vois,
Ouais.
c'est comment tu te sens en sécurité, comment tu te sécurises à l'intérieur de toi. Et en maison 7, bah, du coup, en plus en balance, donc combo, c'est-à-dire qu'en balance, bah, du coup, tu peux avoir le besoin de, tu sais, de, enfin, en fait, d'être avec l'autre, c'est un peu mode people pleasing, tu vois, tu as besoin de faire plaisir à l'autre et tu as l'impression que si t'es pas en couple, t'es rien, genre tu te sens pas bien. Enfin, il y a vraiment ce besoin, ça se reconnaît beaucoup dans la dépendance affective. Et puis en maison 7, c'est la domaine de vie qui régit là tous les, bah, les relations, les partenariats à long terme, enfin le couple, quoi. Et le miroir, l'effet miroir aussi. Donc avec la balance, on est vraiment dans dans j'ai besoin de l'autre en fait pour exister. Enfin, tu peux te perdre dans l'autre, dans le people pleasing. Donc ça, ça va être ça aussi.
Ouais, bah, ouais, moi le people pleasing, c'est une thématique dans mes accompagnements et tout. Bah, c'est quelque chose que j'ai vécu pas, enfin bon, dans la relation amoureuse, mais aussi au niveau du travail, au niveau des amis, etc. Mais je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Bon, ça reviendra parce que ça revient pas. Mais ce besoin. Bon, attends, mince, j'ai un trou. Mais je voulais rebondir sur un truc. Est-ce que tu pourrais juste.
Je t'ai dit quoi
les dernières choses.
Genre plaisir, savoir. People pleasing.
Ouais, avant le people pleasing sur la lune.
Quoi, de se sentir en sécurité
Voilà, c'est ça en fait ce que je voulais dire, c'est que oui, moi je voulais pas forcément tout le temps être en couple. Par contre, les comportements que j'avais, c'était qu'en fait je recherchais l'attention tout le temps d'un mec. Donc ça passait pas forcément par la relation de couple, mais ça passait par des sex friends, ça passait par tu vois, les applications de rencontre, le fait de juste discuter avec quelqu'un et d'avoir l'attention d'un mec. J'avais toujours ce besoin là en fait pour exister, me sentir exister en fait. Et c'est vrai que ça, c'était j'ai réfléchi là avant qu'on là, je viens d'y repenser maintenant, j'avais réfléchi en préparant ce live, que c'était quelque chose où ouais, c'était prégnant. Et dit t'arrêtes, parce qu'en fait dès que j'arrêtais une relation, j'attendais un ou deux jours et bam, je me mettais sur une application de rencontre et je discutais avec des mecs. Voilà.
Il y a Clara qui...
ouais.
Non, vas-y je vais continuer ce que tu
veux. Ouais. Non, et c'est vrai que c'est j'avais pas forcément tout le temps ce besoin d'être en couple, d'être en relation en couple, parce que ben, j'ai pas forcément envie de ça. Mais par contre, de rechercher l'attention permanente, d'avoir de l'attention, tu vois. D'avoir de l'attention.
Ouais, bah après, c'est vraiment être en lien, pas forcément en couple, ouais. Le couple, voilà, le fait de s'engager, mais le fait d'être en lien. Donc ça peut aussi, ben, c'est aussi ça, l'une en balance en plus. Mais du coup, il y a Clara qui me dit, je me retrouve totalement dans ce qu'elle dit. Ah bah voilà, tu... intéressant, mais c'est vrai que même moi, tu vois, tout ce que tu dis, genre je l'ai traversé aussi, donc c'est hyper intéressant. Mais je voulais revenir à ce que tu disais là, le fait de voir de l'attention, parce que c'est ça aussi, il y a aussi beaucoup ça dans les relations actives, c'est cette recherche d'attention et d'affection. Moi je sais qu'avant, mais j'étais incapable pareil que ça d'être, alors célibataire ok, mais par contre il fallait que j'ai de l'attention tout le temps, il fallait que je trouve quelqu'un en fait. C'est hyper, c'est franchement, du coup à l'époque je m'aimais clairement pas, parce que pour dire ça, ça veut dire que quoi, tu prends n'importe qui entre guillemets, genre enfin tu regardes même pas si c'est tes critères ou pas. Non, non, juste tant que tu le trouves un minimum beau et puis voilà, séduisant et tout. Enfin, bref. C'est bon, je t'arrête là et c'est bon. Genre, allons-y, let's go, tant que t'as de l'attention. Moi, je sais que c'était beaucoup émotionnel, tu sais. Des fois, j'ai eu des relations où genre, je voyais presque jamais la personne. Et en fait, c'était pas forcément très grave. Ouais. Moi, ce qui m'importait, c'était émotionnellement de me sentir soutenue, tu vois, d'avoir de l'affection émotionnelle, surtout.
Ouais. Du coup, là. Ça résonne beaucoup, parce que je pense que moi c'était alors oui, moi j'ai plusieurs trucs, mais c'est vrai que le côté émotionnel, je l'ai pas forcément eu, je l'ai avec mon compagnon actuel. Et c'est vrai que c'est là où aussi ben ma mère a fait défaut. Ma mère, elle a été là, mais alors émotionnellement elle comprend pas un quart de ce que je peux ressentir, quoi, parce que bon ben je suis hyper sensible, j'ai beaucoup d'émotionnel, voilà, scorpion ascendant poisson, il y a beaucoup d'émotions ici. Mais c'est vrai, quoi, comme ça résonne aussi ce que tu dis, d'avoir cette attention aussi à ce niveau-là.
Ouais, c'est intéressant. En plus, dans ton thème, tu vois, bon là, je reprends encore un peu, et après, on partira sur les solutions. Mais tu vois, t'as lune qui est en carré, donc en aspect dissonant, donc c'est-à-dire un aspect de tension, c'est comme un conflit à l'intérieur de toi, tu vois, des parties de toi qui sont pas d'accord. T'as un carré à Neptune et Uranus, alors deux énergies qui sont radicalement différentes. Neptune, du coup, ça vient accentuer la dépendance, tu vois, parce que c'est je me perds dans l'autre et je te donne tout, je suis dans la dévotion, dans le sacrifice, enfin, tu vois, vraiment, il y a ce côté-là. Mais à la fois, il y a une partie de toi aussi qui est en mode, mais non, mais je m'en fous des autres, j'en ai rien à faire, genre, moi, je vais être indépendante, libre, laisse-moi tranquille. Et puis, c'est un peu, genre, je me révolte, tu vois, je suis rebelle. Mais il y a vraiment deux côtés, du coup, tu vois, ça peut être un tiraillement. Et j'ai remarqué que les personnes qui se reconnaissent dans la dépendance affective, en vrai, elles ont un côté aussi hyper indépendante, tu vois. Et ça, c'est marrant. Enfin, c'est un taf, c'est marrant. C'est intéressant, je trouve.
Ouais. Ben, c'est vrai que oui, tu parlais des solutions. Moi, dans les solutions que j'ai trouvées quand j'étais jeune adulte, on va dire, c'était ben, de pas tomber amoureuse, d'avoir des sex friends, des plans cul, blablabla, de pas m'engager, de me couper de mon émotionnel, du coup, d'être super pragmatique et limite à considérer ben, les mecs comme ben, des bouts de viande. J'avais quand même de la considération et tout, mais j'avais quand même du respect. Mais par moi, c'était là, bon, ben, voilà, c'est un utilisable, je sais pas si on dit ça en français, c'est quelque chose qu'on utilise et voilà. Et
Mais par rapport à juste au fait de toi, le côté dépendance vs indépendance, est-ce que tu le ressentais toi, chez toi, ce côté à la fois je me sens dépendante, mais à la fois je me sens hyper aussi indépendante, tu vois, ou pas ce que je veux dire?
ouais, c'est venu un peu plus tard, ça j'allais dire, du coup, c'est venu un peu plus tard. Après, j'ai eu ouais, des shifts où je me suis dit, maintenant, j'ai pas de temps finalement pour un mec, j'ai pas envie de retomber amoureuse aussi. Ça, c'était vraiment de mes, on va dire, de mes 24, 25 jusqu'à ce que j'encontre mon compagnon actuel. Et c'était vraiment, ouais, je suis hyper indépendante, il n'y a pas de la place pour eux. Mais comme tu dis, il y avait quand même cette dépendance qui était toujours là, qui se jouait à notre niveau, mais l'hyperdépendance a pris le pas. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de mec pour rien finalement. Voilà. Il peut être là un peu dans ma vie. Il me dérange, il dégage, quoi. En gros, c'était ça. Et ouais, il y a des mecs que j'ai eu dans ma vie qui ont été mes copains aussi, après, mais que j'ai jamais réussi à faire rentrer dans ma vie. Bon, bah, j'arrivais pas à tomber amoureuse d'eux, mais j'arrivais pas à les faire rentrer complètement dans ma vie parce que j'étais là, bon, non, en fait. C'était pas, je sais pas comment dire. Je suis en train de un truc, j'avais besoin de me prouver. Que je pouvais faire ça, 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 ça seule. Et ouais, je suis hyper indépendante. Et finalement, oui, c'est marrant parce que des fois, tu as besoin de l'autre, mais tu n'as plus de besoin de l'autre. C'est ce que tu disais un peu. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que tu vois, genre, ouais, c'est ça, c'est que t'es passé d'une femme, enfin, comme moi, tu vois, genre hyper dépendante, donc qui a l'impression qu'il ne peut pas vivre sans l'autre, qui a besoin tout le temps de l'autre, qui a besoin d'attention, d'affection, d'amour constamment, à une fois que tu as dépassé ça et que tu as vécu la grosse tempête émotionnelle, parce que franchement, on va pas se mentir, c'est super difficile et douloureux, tu vois, quand tu te sépares de quelqu'un, tu as l'impression, surtout dans ces conditions-là de dépendance, tu as l'impression que c'est bon, tu vas mourir, quoi, tu vas crever. Et une fois que tu as dépassé ça, et ben t'as le côté, mais en fait je m'en fous, j'ai pas besoin de vous, genre je suis bien toute seule, laissez-moi tranquille. Et t'as un rejet et tu passes dans l'autre extrême de l'hyper indépendance. C'est assez fou. Mais du coup, si on peut revenir sur les solutions que t'as trouvées, bon là tu m'as dit les solutions pas très, enfin on va dire genre ce que t'avais à ce moment-là, quoi, qui n'étaient pas les meilleures, mais en tout cas de ce que t'as testé pour ton expérience. Mais là, si on parle de qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? T'as été quoi?
Alors, il y a plusieurs choses. Après, je dirais, bon, en gros, j'ai appris à m'aimer, m'accepter, m'affirmer, tout simplement. J'ai appris à légitimer mes émotions, légitimer mes ressentis, légitimer mes opinions. J'ai appris à me connaître, à m'aimer, ouais, bah, telle que je suis, finalement, à accepter, par exemple, cette hypersensibilité, vachement reçue en disant. Parce qu'on m'a dit, hein, j'ai des ex qui m'ont dit, t'es ridicule de pleurer autant. On m'a dit des fois où j'étais là, bon, ben, c'était dur à ce moment-là, bon, il y a 2-3 ans, je te parle ça il y a 2-3 ans, maintenant on parle beaucoup plus d'hypersensibilité, mais d'accepter que c'était normal d'être hypersensible, donc s'accepter que finalement on n'est pas aussi différente que ça et qu'il y a des gens qui sont comme nous et qu'on est ben, voilà, normal. Ensuite, comme je t'avais dit, ouais, j'ai travaillé ma relation aux hommes, donc de me dire, c'est pas que des bons à rien, des oppresseurs, mais il y a des hommes bien et ça existe. J'ai travaillé, je pense, aussi d'un point de vue spirituel, parce que j'ai une relation assez spirituelle assez forte qui m'a poussée, en fait, finalement, à travailler sur ça et qui a appuyé tellement sur des comportements de dépendance et tout que j'étais obligée de m'affirmer et de faire passer mon amour de moi avant tout. Donc ça a été aussi un énorme shift. Ouais, voilà, je me suis mise en priorité. Et ensuite, ce que j'ai vécu aussi en 2021, enfin 2021, ça a été une année assez chargée pour moi. J'ai eu à la fois un burn-out et un éveil spirituel, et donc j'avais pas forcément le choix de travailler sur moi. J'avais pas forcément le choix que de mettre en priorité. J'avais pas forcément le choix finalement que de m'écouter, d'écouter mon rythme, d'écouter mes besoins, de mettre mes limites, de faire des choses pour changer ma vie aussi parce que ma vie n'était pas alignée avec celle que j'étais. Donc j'avais plus forcément le choix. Mais c'est vrai qu'après, en termes plus pratico-pratiques, bah, j'ai fait des coachings, j'ai fait des thérapies. J'ai travaillé aussi en constellation familiale. Au début, ça, c'était pas mal pour tout ce qui était être en générationnel. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les constellations systémiques, ou ça s'appelle, aux constellations familiales. Voilà, j'ai travaillé avec des coachs spirituels aussi, comme j'aime bien appeler ça comme ça, mais des guides spirituels. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais en gros, c'est la, enfin, si je dois te résumer, c'est l'amour de soi.
En fait, ça a fait un condensé, mais en fait, ça a été, ça a été un chemin, j'imagine. T'as mis combien de temps à peu près, toi, c'est à quel moment tu t'es dit, j'en ai marre, je vais m'en sortir, et au moment où tu t'es où t'as vraiment
J'ai alors, ça fait 4 ans, 5 ans. En fait, mon père est décédé. Bon, déjà, fun fact, je sais pas si je l'ai pas dit au début, donc c'est vrai que j'aurais pu le dire, mais mon père est né le même jour que moi, donc ça c'était très drôle. Et en fait, comme mon père a refait sa vie pendant vachement longtemps, et je voyais mon grand-père, je voyais mon oncle qui est du côté de mon père, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'exister. Et donc en fait, pendant longtemps, moi j'ai la blessure de légitimité, je pense que c'est le truc le plus fort chez moi avant tout. Et du coup, pendant longtemps, je me suis empêchée d'exister, je me suis dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et en fait, le jour où mon père est mort, j'ai eu deux prises de conscience. Déjà, de un, que je pouvais m'affirmer, que c'était bon. Enfin, c'est comme ça m'a enlevé un énorme poids. Et de deux aussi, je me suis dit, purée, il est mort jeune. En plus, lui aussi, il avait vécu une blessure d'abandon. Il s'est fait abandonner. Il a été adopté. Donc, il a fait le schéma. Et je me suis dit, moi, je veux pas finir comme lui. Je veux pas finir comme lui à mourir super jeune d'un cancer. Voilà, chacun a ses croyances. Mais moi, dans mes croyances, moment-là et encore aujourd'hui, je pense que l'émotionnel joue beaucoup sur notre corps et sur les blessures qu'on peut avoir sur notre corps. Et si on ne le travaille pas, ben en fait, ça s'incruste dans notre corps et on peut avoir des maladies, quelles qu'elles soient. Et donc là, je me suis dit, stop. Je me suis dit, stop, tu vas apprendre à t'aimer, tu vas apprendre à être heureuse parce que c'est au fond de toi que tu mérites d'être heureuse. Donc je pense qu'il y a eu vraiment ça. Et après, ben, j'ai travaillé à différents niveaux jusqu'à arriver à mon burn-out où c'est arrivé, et à mon éveil spirituel où là, ça allait encore plus. Enfin, ça s'est intensifié et là, il y a plein de choses où j'ai plus le choix et ça allait beaucoup plus vite aussi au niveau du bah, du travail sur soi, de faire des blessures, etc. Et opération vraiment en fin 2020, 2021, mais ça faisait déjà depuis 2018, 2019 que je travaillais activement sur moi. Donc ouais, ça prend.
Ouais, alors là, tu m'as dit, franchement, tu as dit plein de trucs, j'ai envie de rebondir sur tout, maintenant le live va durer 4 heures. Mais non, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je vous invite à regarder le replay, d'ailleurs, si jamais, parce que enfin, tu as dit plein de choses, en fait. En fait, tu as fait un petit peu le condensé de tout ton cheminement et je trouve ça hyper beau. Enfin, ce que nous partages, c'est hyper vulnérable, donc merci. Mais c'est vrai que, en fait, ouais, il y a des choses aussi, enfin, un truc que tu as dit, je vais revenir au début, c'est, tu vois, quand tu as fait un burn-out, il y a plein de choses qui, en fait, j'ai l'impression qu'ils t'ont poussé à te prioriser. Et plus ta relation, quoi. Enfin, en fait, c'est comme si tu n'avais plus le choix. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à attendre d'être au pied du mur avant de bouger. Malheureusement, on est humain, on est un peu comme ça. Hein. On attend que ça fasse bien mal parce que quand ça fait pas assez mal, ben, c'est confortable, donc on bouge pas, tu vois.
Ouais, c'est. Bah, des fois, t'as pas le choix. Voilà. Ça. Moi, j'ai plus le choix. Et puis, bon, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, qui travaille aussi dans le chamanisme. Et moi, en fait, mon âme, elle m'a parlé. Et depuis, bah, je suis mon âme. Et c'est elle qui me drive. Hein. Bien sûr, des fois, il y a des blessures qui ressortent. Et je peux pas dire, oui, je suis guérie de toutes mes blessures et tout. Mais aujourd'hui, c'est elle qui me drive. C'est elle qui me fait prendre mes décisions. Parce que dans mon cheminement d'incarnation, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie. Tout le monde, voilà, c'est mon cheminement à moi. Mais c'est vrai que du coup, bah maintenant, c'est comme si toutes les choses avant qui pouvaient te faire prendre des décisions, des trucs un peu pas très importants, bah aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai ce truc de me dire, non, tu suis ton cheminement, tu suis ton alignement à toi, et c'est ça qui te drive.
Ouais, c'est beau. Mais après, voilà, c'est un chemin, je pense, s'en sortir. Faut pas croire que, genre, quand tu vis ça, enfin, pour moi, c'est vraiment très profond, la dépendance affective. On en parle un petit peu, des fois, un petit peu, genre, oh, je me suis dépendante. Non, mais en fait, les gens qui savent pas ce que c'est, enfin, comment dire, c'est compliqué de comprendre, tu vois, parce que c'est vraiment un pattern, tu vois, genre, c'est pour ça que c'est intense et qu'on emploie un petit peu à tort et à travers, je trouve, des fois. Mais après, c'est quand même bien qu'on libère la parole sur ce sujet parce que, bah, en fait, il y a plein de gens qui traversent ça. Franchement, c'est un truc de fou. On dirait pas, mais il y en a plein qui sont dans ces schémas-là et il y en a pas qui s'en rendent pas compte. Mais en fait, faut pas croire en plus que ça s'enlève au bout de 2 jours, c'est bon, c'est réglé. Non, ça prend longtemps, mais ça en vaut la peine, en fait, à la fin, parce que, En fait, la finalité, c'est quoi? Enfin, il n'y a pas vraiment de finalité, mais au final, tu choisis toi, tu arrives à t'aimer. Et en fait, la personne avec qui tu es, l'homme avec qui tu es, parce que là, on parle de relations hétérosexuelles, mais ça peut être d'autres, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est pas une nécessité. En fait, tu passes de j'ai besoin d'être avec toi à j'ai envie d'être avec toi. Et c'est deux choses complètement différentes. Maintenant, moi, je suis plus un truc. Moi, je me dis, bah, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. J'ai pas besoin. En fait, quand tu t'auto-suffis à toi, tu ressens déjà l'amour à l'intérieur dans ton cœur. T'as plus ce besoin. C'est juste une envie. Hein. Ça devient une envie, en fait, d'être avec quelqu'un et plus un besoin.
Ouais, exactement. Et je trouve aussi quand tu sens, c'est vrai que j'ai pas forcément précisé, mais une partie de guérison, c'est que moi j'ai adoré être. En fait, bon, 2021 était une expérience, je ne vais pas le répéter, mais du coup j'ai passé beaucoup de temps seule à introspecter, etc. Mais qu'est-ce que j'ai adoré ça aussi? Qu'est-ce que j'ai adoré apprendre à être seule en fait? C'est fou. Enfin, moi je pense qu'aussi quand tu es dépendante, tu es dépendante des autres, que ce soit au niveau des relations, mais des fois tu as besoin de tout le temps d'être avec des gens et des choses comme ça. Bon, moi, je suis quand même introvertie, donc j'ai pas eu tout le temps ça, mais ma dépendance peut-être se manifestait différemment. Mais du coup, c'est vrai que ce truc de se dire, j'ai appris à aimer être seule, en fait, aussi. À aimer être seule, parce que voilà, aussi un jour, moi, je me suis dit, tu arrêtes les réseaux, tu arrêtes, enfin, pas les réseaux, mais les apps de rencontre et tout, tu arrêtes tout, tu restes qu'avec toi. Et en vrai, enfin, la plus belle relation d'amour qu'on peut avoir, c'est celle avec soi-même. Et puis en vrai, la meilleure compagnie que j'ai, moi, c'est moi-même aujourd'hui. J'adore être avec moi-même, tu vois. Et je trouve ça magnifique de pouvoir dire ça et de se dire, ben voilà, on apprend à être soi et on apprend à s'aimer, à aimer être avec soi, en fait, aussi.
Ouais, c'est super beau. C'est trop beau ce que tu dis parce que ouais, tu vois, c'est un long cheminement. Et maintenant, par exemple, maintenant, du coup, tu te sens comment avec ton chéri actuel? C'est dans quel état d'esprit? Comment tu vis ta relation? J'aimerais bien savoir.
Ça se passe trop bien. L'avantage, c'est que lui aussi, il a travaillé sur lui. Donc, en fait, on est rentré en relation où lui était conscient parce qu'il y a une blessure de rejet. Et moi, et limite, c'était plus facile pour lui parce que moi, à ce moment-là, j'ai beaucoup appris avec lui à être vulnérable et à exprimer mes besoins. Parce que quand même, exprimer mes besoins dans une relation, j'avais encore du mal. Et en fait, lui, il faisait tellement tout le temps, il s'affirmait tellement tout le temps. Oui. Enfin, je sais pas, je vais pas forcément parce que c'est sa vie privée à lui, mais il y avait vraiment un truc où il disait, bah si c'est pas ok pour moi, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu me rassures là et tout. Puis moi je disais, mais c'est bizarre quand même, il fait tout le temps ça et moi je le fais pas, alors que moi aussi j'ai des besoins et moi aussi des fois, bah t'as des blessures qui sont au pied parce que comme tu dis, la personne elle c'est ton miroir. Et en vrai, moi j'ai appris à être vulnérable avec lui, à lui dire, bah là j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi, pas en mode c'est vraiment, je peux pas le faire sans toi, mais je sais que t'es là et donc c'est chouette de pouvoir compter sur toi. Et lui en plus il adore parce que je pense que vraiment en tout cas j'ai ce ressenti là que dans l'archétype masculin j'ai l'impression que les hommes ils ont besoin d'être nécessaires dans la vie de la personne finalement, je sais pas comment dire. Mais moi je sais que mon copain il m'a dit plein de fois, il me dit mais moi dis-moi quand t'es vulnérable, dis-moi quand ça va pas, moi j'ai envie d'être là pour toi, alors que moi finalement il a de me gérer toute seule que finalement c'est plus compliqué. Mais ça se passe super bien, on a une très très bonne communication justement de par ça. Donc mon copain il est cancer, ascendant cancer, donc il y a beaucoup d'émotionnel aussi. Mais du coup, tu vois, ce soutien émotionnel dont tu parlais, ben, on l'a tous les deux parce que moi je peux comprendre des fois qu'il stresse pour des trucs ou qu'il y a des choses qui l'impactent beaucoup et vice versa. En fait, on se comprend vachement sur ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Mais après, voilà, la relation, ça reste quand même aussi un message, c'est initiatique et. Voilà, comme je disais, moi j'avais du mal à exprimer mes émotions, j'avais du mal à exprimer mes limites parce que du coup, bah, je me suis mis dans un truc de people pleasing. Donc voilà, j'étais remise dans un truc où je me suis encore un peu oubliée, où je me suis dit, et puis en fait, après je me suis dit, mais maintenant, c'est toi de toi à toi en fait. Et puis après, du coup, j'ai mis mes limites. Des fois, c'était pas forcément la façon c'est un peu ferme parce que je pense que quand le scorpion, des fois, peut mettre ses limites, ça peut être un peu ferme. Mais du coup, j'apprends à les, maintenant, moi encore, à les mettre de façon plus douce. Mais on en a vachement discuté. Et il y a pas longtemps, on avait une très belle discussion justement de se dire ben, que moi, j'avais besoin de mettre mes limites et que des fois, peut-être que mes limites, elles ne seraient pas forcément super bien posées, mais que c'était OK et qu'il ne devait pas le prendre pour lui. Parce que lui, des fois, du coup, il se sentait rejeté. Et du coup, ben, moi, du coup, je ne mettais plus mes limites. Enfin, voilà, tu vois, c'était un peu un cercle où finalement, moi, je n'arrivais pas à m'affirmer. Mais sinon, aujourd'hui, vraiment, c'est une relation saine, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est une relation où il n'y a pas de comportement mal. Bien sûr qu'on a des discussions difficiles, bien sûr que des fois on se comprend pas, mais ça se débloque très facilement parce qu'on se comprend très bien en fait. Donc tout se débloque et on arrive à communiquer. Et aussi, il y a de la confiance, tu vois. C'est-à-dire que si lui c'est qu'il peut être vulnérable devant moi et que je vais pas le dénigrer ou le rabaisser, idem. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est une des choses les pires. C'est quand, t'imagines, tu es en couple et tu as une blessure, que tu as besoin d'être rassuré à un niveau, tu as besoin d'être sécurisé à un niveau et tu vas demander ça à ton compagnon ou à toi, à ta compagne, ta conjointe.
Ouais.
Et il ne fait pas dénigre. C'est vraiment, je pense que c'est une des. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une des pires choses aussi qu'on peut recevoir ou qu'on peut faire, en fait, à la personne. Parce que c'est important
Ouais,
d'avoir cette confiance-là et cette intimité-là, en fait, de pouvoir se dire, je peux venir vers lui, je peux être vulnérable dans les deux sens, hein, parce que les hommes aussi, ils ont le droit d'être vulnérables et que la personne l'accueille. Mais.
ça, c'est hyper beau parce que, en plus, ouais, tu dis, les hommes, ils ont besoin. En fait, c'est vrai que, enfin, les hommes, moi, c'est plus l'énergie yang, tu vois, qu'on a tous en nous. Mais c'est vrai que dans une relation hétérosexuelle homme-femme, en général, c'est vrai que les hommes, ils ont besoin, tu vois, de sentir utile,
C'est ça.
et de contribuer parce que en fait, ils vont plus vouloir chercher une solution. Tu vois, le yang, il veut chercher une solution. C'est une énergie qui est dans l'action, qui est dans le faire, donc il veut aider. Du coup, ça fait du bien quand l'énergie yin, elle peut se déposer, tu vois, quand tu es dans ton énergie yin, que tu peux te déposer en toute vulnérabilité, c'est ça qui fait du bien. Mais du coup, tu as trouvé ton équilibre, donc c'est super chouette.
Ouais.
C'est trop bien.
Et juste pour rebondir, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Du coup, je trouve que des fois, quand on est vulnérable, on va dire oui, il y a ça qui va pas, je suis stressée pour ça. Ben là, t'as l'autre personne qui va pouvoir dire mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, je pense, c'est dans toutes les relations. Ça peut être avec les parents, ça peut être avec les amis. Il y a souvent quelqu'un qui va te dire mais enfin la personne à qui tu vas déposer ça va te dire mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ça c'est la coach en moi qui parle. Mais tu vois, trouver une solution tout de suite. Alors qu'en fait, des fois, t'as pas besoin de ça. Des fois, t'as juste envie d'être écouté. T'as pas forcément besoin que quelqu'un te trouve une solution. T'as juste envie de pouvoir déposer quelque chose. Et que la personne te dise ok, je te comprends, je vois ce que tu veux dire, ou alors des fois bah, tu peux pas comprendre, mais au moins je suis là. Et je trouve que
Ouais, je vois la différence. Ouais.
tu vois ce que je veux dire, ouais.
Ouais, parce que, enfin, oui, c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à vouloir trouver une solution, tu vois. Mais oui, comme tu dis, des fois, en fait, tu as juste besoin pas forcément de solution, juste tu veux être écouté et tu veux que tes émotions soient considérées. Donc, en vrai, c'est important de, tu vois, qu'ils sachent te dire aussi de quoi as-tu besoin
Ouais.
et que toi, tu saches lui répondre. Moi, j'ai juste besoin de câlins, de, tu vois, que tu me rassures, que tu me dises des mots doux, etc. Mais pas forcément de solution parce que je m'en fous de ta solution, en fait, là. Tu vois? Donc, ouais, c'est vraiment la communication, c'est hyper important. Mais comme quoi, bah, tu vois, t'es pas passé de relation. De dépendance et toxique à relation saine du jour au lendemain, je veux dire, voilà, c'est un cheminement.
D'un cheminement, et puis et aussi, ouais, ce que je voulais dire plutôt, c'est que faut pas avoir honte de ce qu'on ressent, faut pas avoir honte d'avoir des comportements qui sont peut-être entre guillemets pas normaux comparé à ce que dit dans la société, etc. etc. Je dis ça parce que moi, c'est quelque chose où je me suis dit maintenant, tu vois, là, le fait de parler de ça, des comportements que j'ai, il y a peut-être si pas plus faire parce que l'on a honte. En fait, faut pas avoir honte de qui on est, faut pas avoir honte parce que. Finalement, ben, on a tous des blessures, on a tous des choses qui sont entre guillemets, je dis pas normales, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est normal ou qui n'est pas normal. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Et je pense qu'aussi, il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à travailler sur eux ou à se dire, bon, je vais aller gratter mon caca émotionnel parce qu'en fait, tu as honte des comportements que tu peux avoir et tout. Et je veux dire, pour moi, c'est un amour de soi aussi de se dire, ben, ok, j'ai fait ça, ok, ben, je me sens peut-être honteuse d'avoir fait ça, mais c'est pas grave parce que ce que je suis dans le passé ne définit pas ce que je suis aujourd'hui, finalement.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Mais t'as totalement raison. Hein. C'est vraiment assumer qui on est dans notre entièreté.
Ouais.
Les côtés lumineux comme les plus sombres et donner de l'amour aux côtés les plus sombres parce que c'est justement ceux qui en manquent le plus en général. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin à dire? Parce que là, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer?
Ouais, ma petite réflexion que j'ai eue hier aussi, mais je crois qu'en plus en voyant une espèce de réel, bref, et qui est aussi en lien avec les dernières choses qu'on a discutées, quand tu communiques aussi en relation, faut faire attention de voir aussi ce qu'on ressent pour la personne et ce que la personne nous fait ressentir. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, de se dire que quand nous on communique avec mon copain, on se dit, on dit pas tu. On ne dit pas tu fais ci, tu fais ça. Enfin, ça, c'est de la CNV, quoi, c'est de la communication non violente. Mais vraiment, en fait, bon, là, c'est du cas concret, mais vraiment se dire quand on est en relation, c'est est-ce que c'est vraiment la personne qui me fait me ressentir ça? Est-ce que clairement la personne, elle fait tel comportement? Ou est-ce que c'est. Enfin, non, est-ce que clairement la personne, elle est comme ça? Ou est-ce que c'est un ressenti que j'ai? Parce que moi, je sais que j'ai des ressentis des fois, que je sais que mon copain, il a fait rien en soi, et moi, et idem, moi, j'ai rien fait pour lui faire ressentir ça, mais il le ressent. Là, je sais pas, c'était mon mot de conclusion, mais en tout cas, je trouve que c'est important aussi de s'en rendre compte. Et après, bah, pour conclure, de dire d'apprendre à s'aimer et que la première relation, c'est avec soi-même, en fait, et que je trouve qu'il n'y a pas plus beau cheminement et pas plus belle chose qu'on peut accomplir que de s'aimer, que de s'accepter et de s'affirmer. Je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire ouais, dans de l'amour de soi, en fait, tout simplement. Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est s'aimer, en fait, et apprendre à s'aimer. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça la conclusion, mais en tout
Non,
cas, moi,
c'est...
c'est ma vie, quoi.
Oui, c'est une très belle conclusion. Et ouais, la communication non violente, ouais, très important pour communiquer sainement. Et l'amour de soi, ben, c'est la base, quoi. La base de tout.
Et vous avez une dernière chose, désolée, je suis plus quiète, qu'on peut tout dépasser. Que voilà, comme je dis, on peut tout dépasser. C'est pas le passé qu'on a vécu ou l'enfance qu'on a vécu, ça ne définit pas forcément comme adulte. Et qu'en fait, chaque blessure ou chaque schéma, chaque peur, ça demande du travail, ça demande de l'investissement sur soi, ça demande de l'engagement vers soi, ça demande du courage. On va pas se mentir, ça demande du temps. Mais on peut tout dépasser dans la vie. Enfin, moi, j'en suis persuadée, on peut tout dépasser dans la vie.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord. Et ben écoute, je mettrai tes infos dans la description du live. Ok, si les gens veulent te retrouver. D'ailleurs, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu proposes sur ton compte, qu'est-ce qu'on peut y retrouver.
On peut y retrouver des programmes de coaching pour apprendre à s'aimer, des programmes de coaching aussi pour arrêter le people pleasing, de l'énergétique aussi parce que je fais des soins énergétiques en chamanisme, mais en gros, voilà, je fais du coaching, de la guérison et de l'énergétique.
Trop bien. Trop chouette. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description. Et puis, sur ce, on va se quitter là. Du coup, on avait 1 heure. Parfait. Je t'en parle, mais pas tant que ça, finalement. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, enfin, je vous laisse répondre dans le chat s'il y a des questions ou pas. Sinon, on va s'arrêter là. En tout cas, le replay sera disponible. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. C'était chouette. J'ai adoré cette conversation. Donc, merci à toi, Manon.
Ben, merci beaucoup, Justine, de m'avoir aussi donné cette plateforme-là parce que c'était super chouette de parler de ça et en plus avec le lien avec l'astro parce que ben, l'astrologie, c'est
C'est vrai.
tellement super outil de connaissance de soi, donc je trouve ça trop chouette.
Trop cool. Bah, merci à toi.
Merci beaucoup, passe une bonne journée.
Moi aussi, ciao, ciao. Bisous.